Vous écoutez Radio Kapi, il est 8h à Lufu, au Congo central, 1h de plus à Lufunkwe, dans le Grand Katanga, le journal.
Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bossouma. Voici les titres. La ville de Mbujimayi dispose désormais d'un hôpital moderne équipé de matériel de pointe, financé sur fonds propres du gouvernement central. Le président de la République l'a inauguré hier samedi. Félix-Antoine Tshisekedi poursuit son séjour au Kasaï oriental. 77% des ménages du Maniema sont en insécurité alimentaire. Ceci ressort du rapport de l'analyse de la réponse des résultats de l'évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence. Enquête menée dans cette province en août 2024 en collaboration avec l'Institut national de la statistique et le PAM. Et puis, l'Assemblée provinciale de la Tchopo décide de suspendre les activités minières dans cette province. Le gouverneur est saisi pour l'application immédiate de cette mesure. Pour en parler, nous recevons Mateus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. À tous et à toutes, bonjour. Ce journal part du Kasaï oriental. La ville de Mbujimayi dispose désormais d'un hôpital moderne équipé de matériel de pointe, financé sur fonds propres du gouvernement central. Le président de la République a inauguré hier samedi l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimayi en présence de plusieurs personnalités ainsi que de la population. C'est un reportage de Esther Ndalafina.
Le médecin directeur se réjouit de cette œuvre et indique que l'hôpital général de référence de la Mouya était dans un état de délabrement avancé.
Cet hôpital monobloc ne répondant plus aux normes d'un hôpital général de référence. Pour la première fois dans le Kasaï, nous avons une infrastructure hospitalière qui respecte les standards internationaux. Nous sommes désormais à mesure de fournir des soins de qualité à ceux qui en ont besoin.
Cet hôpital est doté de matériel de pointe, affirme Dr Roger Kamba, ministre de la Santé publique, de l'hygiène et de la prévention.
On y trouve un centre de diagnostic complet, laboratoire ultramoderne, radiologie de dernier cri, échographie, mammographie pour diagnostiquer le cancer de sein, scanner de dernier cri. On y trouve aussi une salle d'opération ultramoderne. Les lits d'hospitalisation sont ceux utilisés dans les meilleurs hôpitaux.
Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwe, a remercié le chef de l'État pour cette initiative.
Avec l'inauguration de l'hôpital de la Mouya, nous marquons un grand pas vers un avenir meilleur et plus sain pour toutes nos familles.
Le président de la République a visité tous les 10 services de cet hôpital avant de lui doter de 2 ambulances modernes. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Restons au Kasaï oriental, à Mbujimayi précisément. L'église catholique du diocèse de Mbujimayi appelle le gouvernement congolais à rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Cela permettrait à la RDC de retrouver rapidement sa place dans le concert des nations. L'évêque de Mbujimayi, Mgr Emmanuel Bernard Kassanda, s'est exprimé ainsi lors de la messe de Noël à la cathédrale de Bonzola le vendredi 27 décembre. Il s'est adressé directement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en ces termes.
L'église de Mbujimayi apprécie positivement votre présence, toujours réconfortante et rassurante. Telle une mère, vous nous entourez si bien de vos soins affectueux. Mille merci pour l'estime et la considération que vous avez pour l'église et pour tout notre peuple. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la tâche que le peuple vous a confiée est délicate et difficile, mais il y a des moments où elle est aussi particulièrement agréable. Votre action en tant que garant de la nation est notamment marquée par des efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans l'est de notre pays. En effet, depuis plusieurs mois, nous faisons face à une réalité macabre, mais vous n'avez jamais baissé les bras. Vous avez été et vous êtes encore de toutes les batailles afin que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans le concert des nations.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, des affrontements violents ont opposé hier les FARDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud du territoire de Lubero. Selon des sources locales et sécuritaires, les combats se sont déroulés entre les villages de Mambasa et d'Alimbongo, situés à environ 60 km au sud de Lubero centre. Des hélicoptères de combat des FARDC pilonnaient hier matin les positions des rebelles autour de ces deux villages. La situation est restée tendue dans la zone selon des sources sur place. Dans la province du Tanganyika, le député provincial de l'opposition Boniface Kabongo exprime son désarroi face au report de sa question orale initialement prévue pour hier et reportée à la session de mars 2025. En effet, il avait adressé une question orale au ministre provincial de l'Intérieur concernant la recrudescence de l'insécurité à Kalemi. L'auteur de la question souhaitait que le ministre de l'Intérieur explique les raisons de cette insécurité ainsi que les mesures prises pour l'éradiquer. Il s'explique au micro de Paulin Munanga.
Nous avons adressé cette question orale avec débat. C'est par rapport à l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kalemi et sur toute la province du Tanganyika. On voulait que le ministre de l'Intérieur vienne s'expliquer, nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Les faits sont tellement nombreux. On tue chaque jour, on vole chaque jour, on viole chaque jour, on brûle les maisons, on détruit les maisons. Aujourd'hui, là, je vous dis, ce sont les écoles qui sont ciblées. Même l'école du ministre de l'Intérieur lui-même a été ciblée par des bandits en pleine journée. Aujourd'hui, là, on a tiré à 20 mètres de la résidence du gouverneur. Alors, ce sont des faits que nous, on a trouvé étranges et que le ministre devrait nous expliquer qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Le ministre ne sait même pas expliquer. Il devait laisser d'abord le ministre s'expliquer parce que la population a besoin des explications du ministre. Et après, il devait venir pour dire non, le ministre s'est expliqué, quand même, il y a ceci, il y a cela, faisons cela. Et ils pouvaient voter, ils sont majoritaires. Peut-être que le ministre a des arguments convaincants.
Restons à Kalemi. Une vive tension est signalée depuis une semaine au village Mulengi, précisément sur le site de Lukwangulo. L'université de Kalemi se dispute une partie de cette concession avec les habitants du village Mulengi. La commission issue de consultations populaires instituée par le ministre de la Justice prend fait et cause pour les villageois. Cette situation a été au cœur d'une manifestation des étudiants de l'université de Kalemi. Reportage de Paulin Munanga.
Pour les autorités académiques, la vaste concession de Lukwangulo située au village Mulengi, à quelques kilomètres de Kalemi Centre, appartient bel et bien à l'université de Kalemi. Le personnel de l'UNICAL met en garde tous ceux qui vont tenter de construire dans cette concession. Ghislain Mugalu est chef des travaux à l'UNICAL.
Nous adressons un avertissement sévère et ferme à toute personne impliquée. Toute nouvelle construction sur les cités universitaires sera immédiatement démolie et les contrevenants seront poursuivis en justice.
De leur côté, les habitants du village Mulengi, plus de 200 personnes au total, disent que ce site leur appartient depuis plusieurs années. D'après eux, leurs maisons ont été détruites en 2022 sur le site sur ordre du gouvernement provincial du Tanganyika de l'époque. Ils se disent surpris de constater que sur le site supposé être de l'université de Kalemi, des autorités se sont partagées des parcelles. David Kakuji, l'une des victimes.
Au lieu qu'ils construisent, comme ils avaient dit que cette parcelle appartenait à l'université, ils sont en train de distribuer aux ministres, aux députés, aux opérateurs économiques, aux certains cadres de l'université. Et heureusement pour nous, le ministre de la Justice est arrivé et a laissé une commission en place ici qui est en train de suivre notre problème.
Kalemi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la situation de la sécurité alimentaire reste alarmante. 77% des ménages du Maniema sont en insécurité alimentaire. Ceci est révélé dans le rapport de l'analyse de la réponse des résultats de l'évaluation approfondie de la sécurité alimentaire en situation d'urgence, couplée aux indicateurs de la nutrition en 2024. Cette enquête a été menée dans cette province en août 2024 en collaboration avec l'Institut national des statistiques et le programme alimentaire mondial PAM. On écoute à ce sujet Michel Mukombeloa, directeur provincial de l'INS Maniema. Il est au micro de Florence Kizalunga.
L'enquête révèle 77% des ménages de la province de Maniema sont en insécurité alimentaire. À la tête des territoires, nous avons les territoires de Kabambare avec 87,6%. C'est une situation très mauvaise. Après Kabambare, nous avons Kailo, 84,1%. Nous avons Pounia, 83,6%. Lubout, nous avons 77,8%. Kasongo, 75%. Hormis la ville de Kindu, les territoires les moins touchés, c'est les territoires de Pangi. Par rapport aux causes, l'inaccessibilité des routes, nous avons la hausse des prix des denrées alimentaires, nous avons aussi les catastrophes naturelles. Nous, nous sommes un service d'alerte. Nous avons collecté les données. Nous demandons à tout le monde de prendre à bras le corps la situation qui guette la province de Maniema par rapport à la sécurité alimentaire. C'est chaque année que nous organisons cette enquête avec les financements PAM et nous demandons au gouvernement de prendre à bras le corps la situation pour résoudre la tendance. La population est en danger. C'est tout gouvernement de prendre ça au sérieux, cette situation qui guette la population.
Dans l'actualité aussi, la ville de Lubumbashi a enregistré près de 500 cas de morsures des chiens et a entraîné près d'une dizaine de morts au cours de l'année 2024. Information livrée jeudi par la division provinciale de la santé du Haut-Katanga au cours du symposium organisé par l'université de Lubumbashi en collaboration avec l'assemblée provinciale du Haut-Katanga. Pour l'analyste à la division provinciale de la santé, la situation demeure préoccupante et requiert des mesures urgentes pour préserver la vie des populations. On écoute à ce sujet le docteur Marc Ngoy, analyste à la division provinciale de la santé dans le Haut-Katanga. Il est au micro de Jean Gandou.
Depuis janvier jusqu'à ces jours, nous avons au moins 476 cas de morsures et il y a eu même des cas de rage confirmés, des personnes qui sont mortes, il y a eu au moins 8 cas. Donc c'est vraiment un problème de santé publique très majeur. Il y a beaucoup de chiens qui sont errants et ce sont seulement des personnes mordues qui passent par nos services. Mais les autres qui ne passent pas, on ne sait pas les contrôler. La commune la plus touchée, c'est la commune de Lubumbashi, avec la partie annexe, bien sûr, de Lubumbashi, suivie de la commune de Kampemba. On a parlé de la santé animale. Et ce qui touche l'animal peut toucher aussi l'homme. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister que ce phénomène de morsure des chiens est devenu très fréquent. Des chiens qui sont devenus enragés. La première des choses, c'est d'organiser une campagne de vaccination de masse chez les chiens. Et puis, deuxième, s'ils peuvent permettre d'abattre tous les chiens errants. Ça peut être une solution pour réduire ces fléaux qui guettent maintenant la province.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, le gouvernement provincial a reçu vendredi un lot de plus de 10 000 ou une dotation du gouvernement central pour la campagne agricole 2025. Eric Kitsa Kalobera, conseiller principal du gouverneur du Kasaï oriental, ou du gouverneur du Nord Kivu plutôt, en charge de l'agriculture, a réceptionné ces outils au nom du ministère de l'agriculture du gouvernement central, outils destinés aux coopératives agricoles paysannes de la province. Bien que cette initiative soit saluée, des nombreuses voix demandent au gouvernement d'accélérer les actions en faveur de la paix, condition essentielle pour la réussite de la campagne agricole 2025. Détail avec Rosalie Zawadi.
Cette initiative vise à renforcer l'autonomie alimentaire de la population en encourageant la production locale, a dit M. Eric Kitsa Kalobera, conseiller principal du gouverneur de province en charge de l'agriculture. Cependant, les présidents des déplacés du camp de Kanyaruchinya soulignent la nécessité d'un retour durable de la paix dans les territoires occupés pour permettre aux agriculteurs de retourner cultiver leurs propriétaires. En attendant, Théo Moussekoura demande une aide financière complémentaire à la distribution de ces houes afin de permettre aux coopératives agricoles des déplacés de pouvoir louer des champs des autochtones et ainsi cultiver des produits à cycle court comme les pommes de terre, les choux et les amarantes. De son côté, un commerçant local déplore l'inondation des marchés de Goma par les produits agricoles importés, une situation favorisée par l'insécurité qui empêche aux agriculteurs locaux de produire. Il a appelé les autorités à renforcer la sécurité et redynamiser l'économie locale en difficulté depuis le début de la guerre. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Soudan. Des habitants au sud de la capitale, Khartoum, ont reçu cette semaine le premier convoi d'aide depuis le début de la guerre entre l'armée et les paramilitaires. Guerre qui dure depuis 20 mois et a dévasté le pays, ont indiqué des volontaires locaux. Au total, 28 camions sont arrivés à Djebel Olia, une localité située à 40 km au sud de Khartoum, signale le réseau local Cellule d'intervention d'urgence, dirigé par des bénévoles qui gèrent des cuisines communautaires, distribuent des colis alimentaires, organisent des évacuations et fournissent une assistance médicale. Par ailleurs, au Soudan du Sud, des milliers de personnes déplacées en raison des violences à Tamboura, dans l'état de l'Équatoria occidental, commencent à revenir chez elles après plusieurs semaines de déplacements forcés. Ces violences qui ont défiguré la région ont poussé les populations à fuir vers des zones plus sûres, notamment à proximité des bases temporaires des Nations Unies. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud, UNMISS, a signalé un retour progressif des déplacés maintenant que la situation est plus calme.
L'invité.
L'Assemblée provinciale de la Tchopo décide de la suspension des activités minières sur toute l'étendue de cette province. Le gouvernement de la Tchopo a été saisi pour l'application immédiate de cette mesure. Seules les entreprises en ordre ne pourront reprendre leurs activités au terme d'un contrôle des documents qui sera effectué à cet effet. Pour en parler, nous recevons le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, le député Mateus Kangalin Londimo, s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Monsieur le Président, qu'est-ce qui motive la suspension des activités minières dans la province de la Tchopo?
Pour répondre à votre question, à l'issue d'une plénière organisée par l'Assemblée provinciale de la Tchopo le 27 juin 2024, la plénière avait décidé de mettre en place une commission d'enquête par rapport aux activités minières sur toute l'étendue de la province de la Tchopo, et particulièrement dans les territoires de Bafoua-Sinté. C'est ainsi que le 16 septembre 2024, nous avons signé un ordre d'émission pour autoriser les députés provinciaux de se rendre sur terrain en vue d'aller mener des investigations, et cela dans les territoires de Bafoua-Sinté, où les missionnaires ont pu mener des investigations et puis se rendre compte des réalités sur terrain avec des images à l'appui de la province.
Monsieur le Président, quel est l'objectif poursuivi par les députés en prenant cette décision?
C'est donc dans le sens de pousser tout le monde à revenir à la raison. Nous ne refusons pas qu'il faut que nos ressources puissent être exploitées, mais ça doit être exploité dans l'ordre et dans la légalité. Voilà pourquoi l'Assemblée plénière a levé l'option d'aider nos communautés, d'aider le gouvernement provincial à rétablir l'ordre dans ces secteurs, d'aider même le gouvernement de la République à rétablir l'ordre dans ces secteurs, et que nous devrons œuvrer dans les secteurs miniers de la province de la Tchopo pour que les gens qui vont se conformer aux textes légaux et qui vont de ce fait s'acquitter aussi de leurs devoirs fiscaux vis-à-vis de la province et vis-à-vis de la nation, puisque nos ressources, on n'est quand même pas dans une zone de non-loi, on n'est pas à la jungle où tout le monde peut tout se permettre. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il est quand même temps de remettre de l'ordre dans ces secteurs et que les choses puissent se passer en conformité avec les textes légaux et les lois.
Les missionnaires sont descendus sur terrain. Quelles sont les irrégularités qu'ils ont constatées?
Alors, parmi les irrégularités constatées, c'est d'abord nous avons des opérateurs miniers qui, en réalité, sont en train d'exploiter, mais qui vous font croire qu'ils sont dans la phase, certains pour la phase de recherche, et d'autres qui n'ont pratiquement pas de documents, qui n'ont pas de documents légaux. Nous avons des expatriés qui sont dans des sites miniers, alors que c'est totalement interdit par la loi. Et nous avons des militaires dans des sites miniers, alors qu'ils n'en peuvent pas. Nous avons une grande complaisance. Il n'y a pas de statistiques. Vous imaginerez, par exemple, qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du gouvernement de la République, au niveau de Kinshasa, on sait que dans les différentes réunions de Troïka, par exemple, les statistiques pour la province de la Tchopo sont de 0 grammes d'or de production annuelle, de 0 carat de diamant. Donc, la Tchopo ne produit pratiquement rien. Alors que nous savons qu'il y a des kilos d'or qui sont produits chaque jour dans la province de la Tchopo. Nous savons qu'il y a des diamants qui en sortent. Mais personne, aussi bien la province, et pour ne pas parler de la nation, que les différentes communautés locales, personne n'en tire profit. Alors que nous sommes sur un sol très riche, et que notre population peut tirer grandement profit. Alors,
y a-t-il des conséquences par rapport à cette exploitation minière que vous qualifiez d'illégale? Si oui, lesquelles?
Il y a énormément de conséquences. Il y a des conséquences d'ordre environnemental, au-delà d'abord des conséquences de l'évasion fiscale par rapport aux recettes publiques, mais aussi par rapport aux différentes communautés locales qui subissent vraiment des impacts de cette exploitation que nous pouvons qualifier d'exploitation presque rebelle, illicite de nos minéraux.
Comment remédier à cet état des choses, Monsieur le Président?
Alors, pour remédier à cet état des choses, il faudra que nous puissions mettre du sérieux. Aussi bien au niveau provincial, au niveau local ici, qu'au niveau national. Parce que la République démocratique du Congo, le secteur minier régi par des textes, il faudra que cela puisse être respecté. La seule manière de remédier à cette situation sera d'appliquer les textes légaux et que tous les exploitants miniers puissent s'y conformer, se conformer par rapport aux textes qui nous régissent, à la Constitution de la République démocratique du Congo, et au Code des miniers et à tous les textes qui régissent aussi bien le secteur minier que le secteur environnemental.
Pourquoi généraliser cette décision alors que la mission n'a été effectuée que dans le territoire de Bafoué-Sendé?
Parce que la même situation vécue à Bafoué-Sendé, c'est la même situation qui est vécue à Banalia, c'est la même situation qui est vécue à Bassoko, et pourquoi pas même en Bundu. Donc la situation est généralisée sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Bafoué-Sendé n'a été qu'un échantillon.
Monsieur le Président, merci.
Merci beaucoup.
Voilà, c'était là le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, le député Mateus Kanga Londimo. Il répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.